Zjednoczenia Europejskie.
Rozumiem tę Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signaient au Palais de l'Élysée le traité d'amitié franco-allemand, plus connu sous le nom de traité de l'Élysée. Ce traité a une valeur essentiellement symbolique. Il met fin solennellement à un siècle de rivalité diplomatique et guerrière. Mais au-delà des mots, le traité de l'Élysée a instauré une relation intime entre les deux pays qui a permis à l'Union Européenne de se construire pas à pas. Et ce n'est pas un hasard si l'on évoque régulièrement le couple franco-allemand qui a connu des fortunes diverses en 55 ans de vie commune. Mais Angela Merkel à Berlin et Emmanuel Macron à Paris entendent bien lui donner une seconde jeunesse. Alors, comment approfondir une relation déjà si intense? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Hélène Mière de la Croix.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire à l'université Sorbonne Paris. Christian Lequen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Micheline Gilsmer, bonjour, guten Tag.
Bonjour, salut de Sarrebruck.
Bonjour, vous êtes professeur de civilisation française à l'université de la Sarre. Merci d'être en ligne de Sarrebruck dans un studio de la radio publique de Sarre. Et Ravena Socht, qui était étudiante il y a encore quelques mois.
Bonjour.
Bon, un double cursus français et allemand.
Inter, actualité.
Au micro, Michel Honorat. Le 22 janvier 1963 s'inscrit dans l'histoire. Pour la première fois depuis des temps immémoriaux, le chef de l'État français a embrassé le chef du gouvernement allemand. Nous allons revivre cet instant. Il est 17h41, nous entrons dans le salon Murat au premier étage de l'Élysée. Les lambrises et les colonnes dorées brillent sous l'éclat des lustres illuminés, au mur des tapisseries représentant des scènes de la vie champêtre, et devant la double entrée, une table ovale recouverte de tapis rouges, et derrière la table, assis dans 5 fauteuils Louis XVI, le général de Gaulle avec à sa droite le chancelier Adenauer et le ministre allemand des Affaires étrangères, et à sa gauche, M. Pompidou et M. Couve de Murville. Sur une estrade, une grappe de journalistes et une dizaine de caméras, de Gaulle signe le premier, le préambule du traité de coopération franco-allemande. Adenauer appose son paraphe immédiatement après, les flashs crépitent, les caméras tournent, puis les cinq hommes signent le traité. La scène a duré 3 minutes, il est 17h45.
Hélène Mière de la Croix, il suffit parfois de 4 minutes pour écrire une page d'histoire.
Oui, en effet, mais c'est surtout ce que l'on a fait de ce texte, parce que quand il a été signé, il a d'abord un peu surpris. Il n'était pas prévu que ce soit un traité qui engage vraiment très largement et pour de longues années les gouvernements. Il y avait une intention de la part du général de Gaulle de rattacher, si l'on veut, le partenaire allemand dans le cadre d'une crise ou de tensions transatlantiques, où les Américains manifestaient un peu d'autoritarisme, notamment en matière de défense vis-à-vis des Européens. Et de Gaulle a lancé ce ballon, si vous voulez, de coopération étroite franco-allemande après un certain nombre de déconvenues au niveau européen dans sa volonté de transformer l'Europe dont il avait hérité en quelque chose de plus intergouvernemental avec donc une réforme qui n'a pas abouti. Et donc on a là vraiment une espèce de coup de force de la part de Gaulle vis-à-vis d'Adenauer, et Adenauer lui prend la main et est tout à fait d'accord pour le suivre, même si, comme on le racontera peut-être un peu après, les choses n'ont pas été aussi bien accueillies par les autres Allemands et Français.
Notamment par le Bundestag.
Notamment par le Bundestag qui a essayé de couper un peu ce traité.
Micheline Gilsmer, il s'agit d'un traité et pas d'un accord qui tient en peu de pages. Que contient-il exactement?
Bon, et qui contient surtout des décisions qui concernent les rencontres régulières entre les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, c'est-à-dire des consultations régulières. Il contient aussi et surtout la création de l'OFAJ, l'Office pour les échanges de jeunesse. Donc ça a joué et ça a donné aussi un point de départ important pour les rencontres entre les jeunes. Mais il ne faut pas oublier que avant ce traité, il y avait déjà beaucoup d'initiatives de la société, des sociétés civiles mutuelles pour se rencontrer, ce qui est assez étonnant et je pense qu'il est important de le souligner, qu'il y a quand même pas mal d'Allemands et de Français qui se sont déjà retrouvés après la guerre et que ça aussi, c'est un aspect que peu de gens peut-être connaissent, que des résistants, des Allemands qui avaient été en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient participé à la résistance, ont joué aussi un rôle important, aussi bien que les résistants français de manière générale.
Christian Lequen, on est en 1963, Mechthild-Gisbert vient de nous le rappeler, c'est-à-dire 18 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il y a un mythe tenace qui veut que le réchauffement de la relation franco-allemande commence avec le traité de l'Élysée, et c'est pas tout à fait exact.
Hein. Oui, je pense que c'est un mythe, effectivement, ça a été rappelé à l'instant. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des initiatives, qui sont des initiatives pionnières de la part d'intellectuels. Un certain nombre d'entre eux appartiennent plutôt au milieu des catholiques personnalistes, pas loin de la revue Esprit. Je pense au père Jean Durivaud, par exemple, qui crée assez rapidement la revue Document, et le Bild, cet organisme donc chargé de faire renaître les relations intellectuelles. Bien sûr, c'est un peu élitiste, mais c'est ce travail qui progressivement va amener la société à changer, car en 1954, lorsque la France rejette la communauté européenne de défense, l'antigermanisme dans la société française est encore très fort. Mais c'est intéressant, 10 ans plus tard, c'est-à-dire milieu des années 60, il a beaucoup baissé.
Mais juste avant ce traité de l'Élysée, et juste avant l'échec de la communauté européenne de défense, il y avait tout de même eu la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier, et l'idée de mettre au début des années 50 le charbon et l'acier, c'est-à-dire en gros ce avec le quoi on fait des canons, des chars et éventuellement des avions, c'était déjà un pas formidable dans le rapprochement franco-allemand, Christian Lequen.
Oui, là on voit avec la CECA que le franco-allemand pour ses concepteurs doit exister comme le moteur de l'Europe. En fait, ce qui est intéressant dans l'initiative de 1950 de la CECA, donc qui est due à Jean Monnet mais qui a été portée par le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman, c'est que on part du franco-allemand pour essayer de faire l'unification de l'Europe, puisque cette communauté, elle est ouverte à tous ceux qui veulent y participer, et c'est le début de l'Europe des six, donc.
Mechthild-Gisbert, quel était l'état d'esprit en Allemagne dans les années 60? On est au milieu des 30 glorieuses, la croissance est réelle, et puis on a ces deux signateurs, Konrad Adenauer, 87 ans, et Charles de Gaulle, 72 ans, au moment où ils apposent leur signature, alors que il y a la jeunesse éclot de chaque côté du Rhin. Quel était l'état d'esprit dans ces années 60?
Ce qui est effectivement important, ce qui vient d'être souligné, c'est que au niveau institutionnel, avec le préambule du Bundestag, il y a eu un peu un froid. C'est-à-dire, c'est surtout au niveau de la jeunesse et au niveau de la société civile qu'il y a eu, si vous voulez, des échanges. Et les échanges, ça veut dire qu'il y a eu, de la part des Allemands, un grand intérêt pour la France. C'est une génération qui a pris la France comme modèle. C'est-à-dire que, vu le passé allemand, vu l'histoire allemande, on était fascinés par la France. Il y a eu, de la part des Allemands, donc, un grand intérêt pour la France, des voyages en France, des échanges. Moi, j'ai participé, par exemple, personnellement, déjà au collège, aux échanges avec Melun, avec une ville française. Du côté français, je pense que c'est un peu différent. Et il y a eu quand même, au niveau de la culture populaire, des échanges, des intérêts des uns et des autres pour le pays mutuel.
Alors, Hélène Mière de la Croix, est-ce que dans les années 60, il y a encore une méfiance très grande des Français à l'égard de l'Allemagne?
Oui, je crois que c'est très difficile de mettre un collectif comme ça. C'est pas les Français. Je pense que déjà à cette époque, Madame Gisbert vient de le dire avec justesse, il y a des très certainement une partie de la population française qui ne veut pas entendre parler des Allemands, qui ne veut pas entendre parler allemand, qui a pour des raisons personnelles, familiales souvent, de grandes douleurs et des rancœurs vis-à-vis de l'Allemagne. Mais il y a aussi beaucoup de gens, et c'est pas seulement dans les élites, qui sont intéressés. D'abord parce que ce discours de la réconciliation, c'est-à-dire de bon, quand même on a subi deux guerres de suite. Il faut pas oublier que les gens qui sont adultes en 1950-1960, ils ont vécu deux guerres. Et cette envie de faire la paix, de trouver un accord avec les voisins est je crois très très porteur. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en effet la jeunesse française, là comme la jeunesse allemande, a dans les années 60 un peu envie aussi de bouger. Il y a une envie de mobilité, on découvre qu'on écoute la même musique, que les jeunes Allemands, les jeunes Français écoutent la même musique qui énerve un petit peu les parents, et que donc on trouve des phénomènes un peu transnationaux de volonté d'un peu plus de liberté, et les revendications de la jeunesse des années 60 qui explosent en 1968 en France, mais qui déjà des 65
elles
en Allemagne...
Elles sont communes des côtés du Rhin.
Elles sont communes, et quand on se rencontre, on voit qu'on se ressemble beaucoup, et c'est ça en fait la bonne idée du traité de l'Élysée, et en particulier de la création de l'OFAGE.
C'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse.
C'est de faire se rencontrer des jeunes, de donner matériellement, logistiquement si vous voulez, la possibilité à des jeunes de se rencontrer qui, a priori, ne se seraient pas rencontrés. Donc pas seulement des échanges scolaires, mais aussi des jeunes apprentis ou des gens qui sont extrêmement lointains et qui découvrent que finalement ils ont plus en commun par leur génération que la différence de langue.
Christian Lequesne, c'est en tout cas le début 1963 d'une relation intime entre la France et l'Allemagne.
Oui, c'est le début d'une relation de confiance. Alors, ça ne veut pas dire que les intérêts des deux pays sont toujours les mêmes, mais je pense que la grande caractéristique de cette relation, c'est précisément de pouvoir mettre sur la table les sujets où il y a des désaccords et d'essayer de trouver, en s'extrayant le plus possible du formalisme diplomatique, une forme de compromis. Et c'est ce qui rend cette relation particulière au sein de l'Union européenne. Je ne vois pas d'autres équivalents. Il y a bien sûr d'autres groupements régionaux. Si vous prenez le groupe de Visegrád, par exemple, les quatre pays d'Europe centrale. Mais les quatre pays d'Europe centrale, ils ne peuvent...
On peut les rappeler Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie.
Ils ne peuvent aboutir à des initiatives qu'à partir du moment où ils sont d'accord au départ. Ce n'est pas le cas des Allemands et des Français. Et il y a même certaines études qui ont été menées, je pense, un très bon article publié il y a quelques années par collègue de l'Université de Trèves, Joachim Schild, qui dit que finalement c'est lorsqu'on est en désaccord le plus qu'on a le plus de chances d'aboutir à un bon compromis à la fin. Voilà, ce qui représente bien sûr au sein de l'Union européenne une forme de leadership qui est sans équivalent, puisque ça a un effet d'entraînement aussi sur les autres membres de la communauté ou de l'Union maintenant.
Alors c'est de là que naît cette fameuse notion du couple franco-allemand. Alors on dit le couple franco-allemand, il y en a eu un certain nombre: Adenauer, De Gaulle, Pompidou, Brandt, Giscard, Schmitt, Kohl, Mitterrand, Chirac, Schröder, et puis Sarkozy, Hollande, Macron avec Angela Merkel. Alors ça dure 55 ans, c'est une longue histoire, forcément ça marche plus ou moins bien, Christian Lequesne.
Oui, alors peut-être est-ce que l'on attache trop d'importance à la relation entre le chancelier et le président. Je ne dis pas que ça ne joue pas. Je pense que au contraire, dans l'étude de la diplomatie aujourd'hui, on est plutôt en train de redécouvrir le rôle des personnalités. Mais ce qui est important, c'est toutes les structures qui sont derrière, c'est-à-dire aussi la communication des conseillers, la communication des directions d'administration centrale dans les ministères à Bonn jadis, à Berlin maintenant et à Paris d'autre part. Tout cela, si vous voulez, fait système. C'est-à-dire, le traité de l'Élysée a amené une forme de confiance institutionnelle qui repose sur l'échange. Et on le voit par exemple dans les relations qu'ont les ambassadeurs de France et d'Allemagne dans les pays tiers. Ils ont tendance à échanger assez naturellement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en concurrence parfois sur certains dossiers, notamment les dossiers de diplomatie économique. Ça, c'est autre chose. Mais quand même, en règle générale, il y a cette idée que c'est légitime de se consulter.
Voilà. Et il y a des échanges à tous les niveaux. Il y a par exemple à l'Élysée un représentant de Madame Merkel à plein temps, hein, je crois. Idem pour le Bundestag,
l'émir de la France. À Matignon aussi, aux affaires étrangères, et dans la plupart des ministères, maintenant, il y a des circulations, des échanges de fonctionnaires. Et pour aller peut-être un tout petit peu plus loin dans ce qui a été dit, je pense que c'est ça, c'est absolument ça qui est essentiel dans cette relation, et qui est le résultat du traité de l'Élysée, au moins de l'esprit de sécurité de l'Élysée, c'est de, et qui poursuit Schuman, qui est de dire on ne fait pas la guerre à un ami, on ne fait pas la guerre à quelqu'un qu'on connaît. Et qu'il faut qu'il y ait une connaissance intime de la situation de l'autre. Et partir de l'idée qu'on va imposer quelque chose au voisin est inefficace. En revanche, une connaissance intime, une intelligence de l'autre, une connaissance intime de ses contraintes, de ses possibilités, de ses souhaits et des limites peut permettre d'avancer, parce que c'est pas la peine d'essayer d'imposer quelque chose. On trouvera beaucoup plus facilement le compromis si on a intégré la logique de l'autre. Et c'est ça, je crois, qui est la clé des résultats franco-allemands, c'est que on connaît tellement bien l'autre qu'on intègre déjà dans la propre élaboration de sa position comment l'autre partie va réagir.
Alors cette relation franco-allemande a donné lieu à des crises, des ratés, des grands moments et aussi des images fortes. Alors peut-être la première image forte, c'est peut-être le voyage du général de Gaulle dans les années 60 et ses discours prononcés en allemand qu'il avait appris par cœur et qui ont surpris, je crois, les Allemands à l'époque. Et puis bien évidemment cette image de François Mitterrand et d'Helmut Kohl à Douaumont, donnant la main devant cet ossuaire de Douaumont, une image très forte que l'on a tous en mémoire. Mais quand on est un peu plus jeune comme vous, Ravena Assange, quelles sont les images et qu'est-ce qu'on retient de cette relation franco-allemande? Et quelles sont les images qui vous ont marqué dans votre jeunesse? Alors, vous êtes encore plus que jeune, hein, mais néanmoins...
Oui, pour moi, pour vrai dire, c'était plus une histoire naturelle. Je connaissais d'abord des Français, et après, fur et à mesure, j'ai fait la connaissance de l'histoire qu'il y avait derrière. Mais en gros, j'ai commencé de faire des échanges avec la France par l'office franco-allemand, par exemple. Et c'était après que j'ai découvert qu'il y avait une histoire derrière qui n'était pas tout à fait naturelle.
L'image que vous retenez de cette relation franco-allemande, j'ai fait référence à François Mitterrand et Helmut Kohl, mais c'est déjà une image qui a 30 ans à peu près, non, j'exagère.
1984.
Est-ce que c'est une image que vous avez en tête?
Oui, c'est maintenant, tout à fait, c'est une image, mais j'ai fait mes études à Sciences Po à Aix-en-Provence, j'ai étudié les histoires franco-allemandes, c'est pour ça. Mais je veux dire que dans la jeunesse, pour moi par exemple, c'est devenu quelque chose beaucoup moins historisé, je dirais.
Alors,
moins les images.
En tout cas, sans cette relation franco-allemande si forte, si intense, si intime, l'Europe ne serait pas où elle en est aujourd'hui, Christian Lequen?
Je crois que dans ce système européen où parfois il est difficile justement de trouver des formes de leadership, aussi parce que l'Europe s'est constituée, disons-le, avec le rejet de l'hégémonie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais il se trouve quand même que un système politique, quel qu'il soit, et l'Europe est un système politique, c'est pas un État, mais c'est un système politique, a besoin de leadership. Et une des rares formes de leadership que l'on ait vraiment pu observer, c'est la relation franco-allemande, avec à mon avis des phases et des moments, et je pense que la période allant jusqu'à la réunification est différente de celle qui suit. Il y a réunification de l'Allemagne, mais aussi réunification de l'Europe. Je pense qu'en 1990, ça correspond à peu près à la signature du traité de Maastricht, il y a quelque chose qui change dans la capacité des Français et des Allemands à entraîner les autres. Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a plus d'États membres, c'est plus difficile, hein, quand il y a plus d'États membres. Et puis, deuxièmement, il y a des opinions publiques commencent à considérer l'Europe comme quelque chose de politique, hein, et donc qui ont tendance à peser davantage sur les gouvernements des deux côtés. Il y a une politisation de l'Europe dans les débats de politique intérieure, à la fois en Allemagne et en France.
Mechtling, Gizmer, vous ressentez aussi cette évolution de la relation franco-allemande à partir des années 90, une évolution avec le phénomène de l'Europe qui grandit, tout ça en quelques mots.
Absolument, absolument. J'aimerais revenir d'ailleurs sur cette question de l'image et le rapport à l'histoire, parce que je trouve que c'est vraiment formidable la manière dont le regard des Allemands et des Français par rapport à l'histoire, par rapport à la guerre, a évolué. Et ça a été évoqué aussi tout à l'heure, l'importance d'avoir des deux côtés des personnes qui sont en mesure de différencier et donc pouvoir comprendre un problème concret à partir de l'histoire des deux pays.
Mais Schlingelmer, on a compris qu'il y avait un grand pas qui avait été franchi entre les Français et les Allemands. On comprend qu'il y en a de grands encore à franchir et on va voir ça dans la deuxième partie de l'émission. En attendant, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Appelez-nous, exprimez-vous. Vladimir Cagnolari.
Ce lundi, je vous propose de réagir au bilan de Donald Trump un an après son arrivée à la Maison-Blanche. Retrait de l'accord sur le climat, Corée du Nord, Moyen-Orient, politique migratoire, quel bilan faites-vous de son action ? Donald Trump est-il à la hauteur de sa fonction ? J'attends vos réactions.
33 9 693 693 70.
Vladimir Cagnolari, avec vous au téléphone demain, à partir de 8h10 TU.
RFI.
Radio France Internationale en direct de Paris, où il est 18h30.
François Bernard.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce dimanche 21 janvier, en Allemagne, le Parti Social-Démocrate, le SPD, réuni en congrès à Bonn, a voté cet après-midi en faveur de l'ouverture de négociations avec les conservateurs d'Angela Merkel et en vue de constituer un gouvernement de grande coalition. Les délégués ont donné leur feu vert par 362 voix pour, 279 contre et une seule abstention. Les négociations devraient débuter cette semaine. Plus de 30 personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche dans l'attaque de l'hôtel intercontinental de Kaboul par un commando taliban, selon un nouveau bilan, toujours provisoire. Parmi les personnes décédées figurent les membres du personnel de l'hôtel, des clients et des membres des forces de sécurité. Les assaillants, au nombre de 5, ont tous été tués. Il a fallu 13 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'établissement après cette attaque revendiquée par les talibans. Des troupes turques sont entrées aujourd'hui en territoire syrien dans la région d'Afrin. C'est ce qu'annonce le commandement turc au troisième jour d'une opération qui vise à chasser les milices kurdes YPG de cette enclave du nord de la Syrie. Environ 25 000 rebelles de l'armée syrienne libre participent à l'opération aux côtés de l'armée turque. La France et les États-Unis ont exhorté la Turquie à agir avec retenue. Paris a demandé en outre une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce sujet. Une juridiction irakienne a condamné à mort une Allemande d'origine marocaine pour appartenance au groupe État islamique capturé par l'armée irakienne au cours de la bataille de Mossoul l'an dernier. Cette Allemande, dont l'identité n'a pas été révélée, est la première femme étrangère à se voir infliger une telle condamnation en Irak. Le roi Abdallah jordanien a demandé aujourd'hui aux États-Unis, à l'occasion d'une visite à Amman du vice-président américain Mike Pence, de rebâtir la confiance et de faire avancer une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien. Plus d'un mois donc après la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. La tension monte dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh à quelques jours du lancement officiel d'un programme prévoyant leur réinstallation en Birmanie. Plusieurs dizaines d'entre eux ont manifesté ce week-end lors de la visite de la rapporteuse spéciale des Nations Unies dans plusieurs camps situés à la frontière entre les deux pays. Des discussions qui sont censées reprendre aujourd'hui à Washington, où le chef de file de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, entend travailler aussi longtemps qu'il le faudra pour sortir de l'impasse du shutdown dans lequel se trouve le gouvernement fédéral depuis vendredi minuit. Un mot de tennis pour finir, on connaît les affiches des deux premiers quarts de finale des internationaux d'Australie à Melbourne. Rafael Nadal contre Marin Cilic et Grigor Dimitrov contre Kyle Edmund. RFI 18h33 à Paris.
Spotkania europejskie.
Kruzymią tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie, le 22 janvier 1963. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signaient au Palais de l'Élysée le traité d'amitié franco-allemand, plus connu sous le nom de traité de l'Élysée. Ce traité a une valeur essentiellement symbolique, car il met fin solennellement à un siècle de rivalité diplomatique et guerrière. Mais au-delà des mots, le traité de l'Élysée a instauré une relation intime entre les deux pays qui a permis à l'Union Européenne de se construire pas à pas. Et ce n'est pas un hasard si l'on évoque régulièrement le couple franco-allemand qui a connu des fortunes diverses en 55 ans de vie commune. Mais aujourd'hui, Angela Merkel est à Berlin et Emmanuel Macron à Paris entendent bien lui redonner une seconde jeunesse. Alors, comment approfondir une relation déjà si intense? Comment renouveler le traité d'Élysée? Je vous représente les invités que nous ont rejoints. Hélène Mière de la Croix, professeure d'histoire à l'université Sorbonne Paris. Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris. Mechthild Gilsmer, professeur de civilisation française à l'université de la Sarre. Elle est en ligne de Sarrebruck. Et Ravenna Zost. Elle était étudiante en sciences politiques il y a quelques mois encore. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Carole Lyon.
Bonjour Daniel.
On a vu dans la première partie de l'émission que la relation franco-allemande était d'une longue histoire, parfois un peu exclusive. Alors quand Angela Merkel et Emmanuel Macron entendent lui donner un nouvel élan, qu'en pense-t-on dans le reste de l'Europe et par exemple en Italie? Eh bien, le grand quotidien italien La Stampa tire la sonnette d'alarme.
Voilà, exactement. Et c'est en fait le correspondant à Bruxelles du journal qui donne l'alerte et prévient les Italiens. Attention, de là où je suis, je vois qu'une mini-Europe est en train d'être construite. Et à mon avis, c'est une très très mauvaise nouvelle pour les Italiens. Donc il explique, le projet, il a l'air génial sur le papier. La France et l'Allemagne sont en train d'essayer de s'entendre pour créer un marché rien que pour elles et d'harmoniser leurs règles. Donc les règles seront exactement les mêmes à Lyon et à Francfort. Et ça, c'est quand même, sur le papier, un très beau signe en ces temps d'euroscepticisme.
Sauf que, vu de Milan ou de Rome, ça pose un petit problème.
Mais oui, parce que le problème, c'est que dans tout ça, l'Italie sera le dindon de la farce, prévient le journal. Parce que si la crise de l'Union européenne devait s'aggraver, les Français et les Allemands, eux, seraient tranquilles, ils auraient leur mini-Europe. Mais nous, les Italiens, nous qui comptons tellement sur l'export, nous ne pouvons pas nous permettre en dehors de cette mini-Europe, ce serait une catastrophe pour notre économie. Donc le journal, qui a une ligne libérale, prévient qu'il faut absolument tout faire pour réussir à rentrer dans ce club. Sauf qu'il est bien conscient que ça risque pas d'arriver. On est à 2 mois des élections générales et aucun des grands partis n'a vraiment l'air de miser sur une ligne vraiment européiste. Donc il prévient quand même. Il est temps de nous ressaisir, sinon nous allons droit dans le mur.
Merci Carole. Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. C'est peu dire, Christian Lequen, que la relation entre Berlin et Paris a agacé et agace toujours au sein de l'Union européenne.
Oui, et en même temps, on pourrait retourner l'argument en disant que la préoccupation italienne, dans ce cas-là, c'est de ne pas être marginalisé et d'essayer de suivre le tandem franco-allemand. Je pense que il faut comprendre cette réaction dans la perspective des élections prochaines, législatives, où tout est très ouvert en Italie. On ne sait pas quelle majorité va sortir ou quelle coalition va sortir de ces élections. Donc là, c'est un peu quand même, je dirais, l'aspect vertueux, l'effet d'entraînement qui est souligné. Mais vous avez raison, il y a aussi l'autre aspect qui est la peur de l'hégémonie. Et à mon avis, ça a beaucoup cru cette peur aussi avec l'arrivée des pays d'Europe centrale et orientale. D'abord parce qu'ils ont eu une relation politique toujours un peu difficile avec les grands voisins. Toute leur histoire du XXe a été une histoire tragique d'hégémonie des grands voisins. Donc ils ont peu de mal à comprendre que les grands voisins ne sont plus forcément ce qu'ils étaient dans des périodes plus anciennes, mais en tout cas, ils se méfient de tout ce qui est assimilable un peu à une forme d'hégémonie ou de leadership exclusif.
Donc, alors, en même temps, Christian Lequel, on peut se poser la question, l'Union européenne pourrait-elle exister sans ce fameux moteur franco-allemand?
Si on prend l'histoire sur le long terme, c'est-à-dire un long terme pas très long, d'ailleurs 60 ans, on se rend compte quand même que les grandes initiatives qui ont fait bouger l'Union européenne, les Français et les Allemands ont été souvent à l'origine. Que ce soit d'ailleurs dans le domaine institutionnel ou dans le domaine de la coopération monétaire, d'abord le système monétaire européen dans les années 70, ensuite l'union économique et monétaire, c'est quand même toujours et souvent parti d'initiatives franco-allemandes. Donc non, moi je dirais que ça a eu un rôle vertueux sur la construction européenne, mais ça n'a jamais été suffisant, car l'Europe, c'est pas seulement la France et l'Allemagne.
Alors, Monsieur Gizmer, est-ce qu'on est conscient en Allemagne, par exemple à Sarrebruck, qu'effectivement, il y a un certain hégémonisme allemand, il y a un certain hégémonisme franco-allemand au sein de l'Union européenne?
Moi, je suis très étonnée de la réaction italienne, à vrai dire. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que ce qui est pensé ou ce qui est relancé, là, est considéré comme si ça ne concernait que le côté économique, alors qu'il faut faire de sorte que dans ces nouvelles orientations, il y aurait aussi des mesures qui concernent la culture. Donc, il faut voir que ça concerne d'abord plusieurs secteurs, plusieurs domaines politiques, sociétales et culturels. Donc, pour ce qui est le point de départ, ce qui me semble important, c'est de se dire quel était le point de départ du traité de l'Élysée. Effectivement, nous l'avons évoqué, le point de départ de l'Élysée, c'était de la réconciliation. C'était par rapport à la guerre, surmonter cette situation de l'inimité héréditaire et créer donc une nouvelle relation entre les deux pays. Donc il y avait un défi, il y avait une crise, une relation qui a été donc une relation difficile et conflictuelle à donc renouveler ou à faire de sorte à ce que ce soit surmonté. Quel est le défi aujourd'hui? Quelle est la crise aujourd'hui à laquelle il faut trouver des réponses? À mon avis, il faudrait plutôt souligner cela et se dire voilà, quel est le but de cette idée de relancer le traité de l'Élysée? Quel est le défi? À mon avis, à mes yeux, le défi, c'est les questions identitaires, les questions communautaristes, c'est-à-dire comment réagir dans cette Europe qui est très imprégnée par où il y a les populismes qui se sont développés, comment réagir par rapport à cette situation, le développement des nationalismes, des populismes, et essayer donc à partir des expériences qu'on a faites avec le traité de l'Élysée, comment réagir par rapport à ça? Ça me semble une question primordiale actuellement.
Hélène Mielleur-Delacroix, vous aviez envie de réagir.
Oui, j'entends tout à fait et je partage cette vision des choses. Et en même temps, je pense qu'il faut regarder, et c'est ce que nous enseigne l'histoire de cette affaire, les choses de manière aussi un petit peu avec le réalisme de ce à quoi sont confrontés les dirigeants. La première relance, si vous voulez, de ce couple et en institutionnalisant son existence, c'est 1988. Ce sont des décisions qui sont prises en 1987 par Mitterrand et Kohl, parce qu'on se trouve, et c'est donc essentiellement en matière monétaire et en matière de défense. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a un défi à relever qui est le désarmement progressif. 87, c'est l'accord sur les FNI et où les Français et les Allemands en Europe vont se trouver confrontés à une nécessité de repenser la stratégie et la défense commune. Donc aujourd'hui, je pense que là, on a d'une certaine façon des défis similaires. Madame Gismer a tout à fait raison d'évoquer les questions de présence d'étrangers, d'hostilité, de xénophobie, etc. Mais je crois que d'abord, il s'agit de sécurité intérieure. Et je pense que les dirigeants ici doivent entendre bien progresser sur un certain nombre de questions pour désamorcer les mouvements de xénophobie et les mouvements d'insatisfaction qui conduisent un certain nombre d'électeurs à aller vers les partis populistes. Il s'agit aussi d'économie. Il s'agit d'améliorer les dispositifs de solidarité à l'intérieur monétaire, enfin, et de budget à l'intérieur de l'Europe. Je crois que c'est pas un hasard non plus si c'est le gouvernement qui est en train d'être formé en Allemagne a accepté, si vous voulez, une des idées lancées par le président Macron à la Sorbonne le 26 septembre, de dire il faudrait créer un fonds monétaire européen donc qui permette aux Européens entre eux de régler leurs affaires et d'avoir un budget, des investissements propres et donc de que le politique reprenne la main contre les populistes.
On va y revenir bien évidemment, mais Ravina Shaus, quand on est jeune, la guerre c'est loin, la paix c'est une évidence et la construction européenne n'est plus perçue comme aussi excitante qu'à ses débuts. Alors quand on est jeune, est-ce que c'est encore important la relation franco-allemande?
Bien évidemment, pour moi c'est une question très importante. Les relations franco-allemandes ont beaucoup influencé ma vie et tout ce que j'ai fait depuis mon lycée quasiment, ça a été influencé par l'histoire franco-allemande. Et je veux dire que c'est pas juste l'expérience que moi j'ai faite, mais c'est quelque chose que on peut observer un peu partout dans les villes qui sont jumelées, dans les lycées qui font des échanges, dans les universités. C'est, comme j'ai déjà dit, l'histoire est un peu moins présente pour les jeunes, c'est clair, c'est normal, je crois. Mais ça reste quand même très important dans la vie quotidienne.
Samia Metini est allée poser cette même question à quelques étudiants de l'université Sorbonne Paris de l'importance de la relation franco-allemande.
Plus que jamais, le couple franco-allemand est nécessaire à l'unité ou au bon fonctionnement de l'Europe. Il faut renforcer cette relation tout en sachant que malgré tout, la France et l'Allemagne restent des États-nations avec des intérêts convergents et divergents. Donc il ne faut pas être dupe du couple franco-allemand, car dans un couple, il y a toujours un cheval et un cavalier. Pour l'instant, nous savons très bien que c'est l'Allemagne, le cavalier, et la France, le cheval.
Il s'agit d'une relation indispensable pour les deux pays. Ce sont deux piliers de l'Europe, que ce soit économique ou culturel. Et je pense qu'une Europe sans relation franco-allemande, c'est une Europe faible.
Vous pensez qu'il faudrait qu'elle soit renforcée ?
Complètement. Enfin, après, il faudrait aussi renverser le jeu de balance de l'Allemagne qui prend le dessus sur la France, que ce soit sur différents plans, le plan politique. On parle souvent de l'Europe de Merkel, mais ce serait bien aussi de rééquilibrer avec le nouveau président.
Je pense que c'est un couple absolument fondamental qui a construit l'Europe, etc. Il y a beaucoup de responsabilités qui pèsent sur cette relation et je pense que l'Allemagne a pas mal donné le ton de ce que devait être la politique européenne, de ce à quoi ça devait ressembler. Je pense que ce serait pas mal que les autres pays se réaffirment, notamment la France. Je pense qu'on reste encore quand même pas mal dominé par le discours allemand et qu'on continue un peu dans la même lancée qui, moi, en ce qui me concerne, ne me plaît pas trop. Je rêverais d'une Europe un peu plus politique, un peu plus fédérée, avec une vraie politique de sécurité, etc.
Carrefour de l'Europe, 55 ans, presque jour pour jour, le traité de l'Élysée était signé au palais de l'Élysée entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Alors comment renouveler, comment approfondir ce traité de l'Élysée, comment approfondir la relation franco-allemande? Nous sommes avec Hélène Mière-Delacroix, professeure d'histoire à l'université Sorbonne Université, Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris, Micheline Guizmer, professeur de civilisation française à l'université de la Sarre, et Ravena Assost, qui était, il y a quelques mois encore, étudiante en sciences politiques. Alors, Christian Lequen, on entend bien dans ces témoignages la notion d'un rééquilibrage, ouais, d'une part, entre la France et l'Allemagne, et d'un nécessaire approfondissement de l'Europe.
Oui, ça c'est une perception, c'est intéressant parce que c'est des jeunes qui l'expriment, et je pense que c'est une perception française des 10 dernières années. C'est-à-dire, à partir du moment où l'Allemagne commence à se sortir de sa crise économique, alors qu'au début des années 2000, elle est quand même l'enfant malade de l'économie européenne, et les Français ont plus de mal, stagne, on a le sentiment que l'Allemagne donne le ton sur l'avenir économique de l'Europe.
Et donc c'est aussi un moment où l'Allemagne s'impose politiquement.
Voilà, elle s'impose politiquement. Il y a des discours aussi en Allemagne qui sont assez sévères sur la gestion de la crise dans les pays du Sud. Hein. Je pense en particulier donc à la ligne de Monsieur Schäuble, hein, qui est aujourd'hui le président du Bundestag, mais qui était le ministre fédéral des Finances, sur notamment les aides à la Grèce, etc. Tout ça a créé chez les jeunes français et peut-être plus largement dans la société française aussi l'idée que on est passé d'un co-leadership franco-allemand à un leadership allemand. Voilà. Et je pense que justement Macron peut inverser aujourd'hui cette perception en donnant l'impression d'aller à nouveau vers une forme d'équilibrage, ce qui me paraît d'ailleurs plus productif pour faire avancer l'Union européenne.
Vous diriez que le rééquilibrage est en marche, Hélène Mière-Delacroix ?
Ah oui, on entend beaucoup là depuis la campagne électorale de l'été dernier, et puis après le discours de Macron à la Sorbonne. Très clairement dans l'opinion en Allemagne, dans les médias, une demande insistante auprès des partis politiques qui essaient de former un gouvernement, de dire mais attendez là, qu'est-ce que c'est que ces Allemands qui ne sont pas capables d'être au rendez-vous? Nous attendons depuis des années que les faits bougent, et là nous avons un jeune président qui a des initiatives extrêmement positives et qui nous fait des propositions extrêmement précises. Nous ne devons pas rester à la traîne, et d'ailleurs je pense que c'est si en effet on voit se former bien clairement le gouvernement de grande coalition, ils se sont bien mis d'accord sur cet aspect-là, qui peut-être plus encore que sur certaines revendications du SPD en matière sociale et qui reste un petit peu sur le côté.
Alors, question de laquelle, effectivement, on a une Allemagne quelque peu en panne en ce moment, hein, ce qui ne veut pas dire forcément qu'elle a miné, mais si les négociations en cours entre la CDU-CSU d'un côté et le SPD de l'autre aboutissent, c'est un long processus, on peut peut-être en dire un mot, la tonalité sera très européenne.
Alors, je pense que d'un point de vue stratégique, pour Emmanuel Macron, la grande coalition, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. C'est-à-dire, là, il aura un interlocuteur qui discutera, en tout cas, de la possibilité d'avancer sur son projet d'Europe politique. Alors que si on avait eu la coalition jamaïcaine avec les libéraux, ça aurait été, c'est-à-dire le FDP allemand, ça aurait été vraisemblablement plus difficile. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le débat au sein de CDU-CSU. Il y a au sein de CDU-CSU un certain nombre de politiciens, mais aussi de militants, qui quand même continuent à avoir une forme de méfiance à l'égard de la France, et c'est une méfiance sur la capacité à respecter les critères de Maastricht, tout d'abord. Ça reste fort, hein. Et je trouve que symboliquement, ce qui est très très important pour que la confiance revienne, c'est que nous sortions du processus de contrôle pour déficit excessif. Ça, c'est un point très 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 important. Mais évidemment, de l'autre côté, ça pose le problème de la politique économique qu'on mène en France, la réduction des dépenses publiques, etc. Mais je trouve qu'on ne regarde pas assez l'évolution au sein de CDU et encore plus de CSU, qui va avoir des élections bientôt. Il faut être conscient quand même qu'il y a eu des cassures là, liées au fait que la France, depuis quelques années, quand même ne respecte pas les engagements. En Allemagne, les règles, ça compte, hein. Ça fait partie de l'ordolibéralisme.
Alors, monsieur Griezmer, il y a évidemment en ce moment des grandes négociations entre les deux grands partis, CDU d'un côté et SPD de l'autre. Ce qu'il faut noter, c'est effectivement cette tonalité européenne, puisque dans ce premier document qui est sorti de 28 pages, on parle pour la première fois d'un budget de la zone euro, d'un mouvement européen de stabilité qui se transformerait en fonds monétaire européen, une GroKo, comme on dit en Allemagne, une grosse coalition plus sociale, qui réclame un pacte social. Est-ce que c'est important, est-ce qu'on en parle beaucoup en ce moment en Allemagne, de cette tonalité allemande, de cette tonalité européenne, pardon, ou pas, ou est-ce que ça s'est passé relativement inaperçu? En tout cas, c'était dans le document qui est sorti en début de semaine.
On ne peut que s'en féliciter, d'abord, dans un premier temps, mais j'étais quand même un peu étonnée de retrouver ces clichés, le discours allemand, c'est-à-dire, même si ce qui a été dit, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire il y a eu un changement, il y a eu effectivement une domination dans certains domaines de la politique allemande, mais il me semble quand même que les réactions par rapport à ce phénomène, ou par rapport à ce fait, sont parfois exagérées et relèvent encore de clichés qu'il faudrait quand même prendre en considération, qui concernent les perceptions de l'autre, c'est-à-dire... Je plaide pour encourager et développer des initiatives de connaissances et des initiatives, ce qui serait bien de faire des initiatives communes dans un pays tiers, c'est-à-dire pour éviter justement cette impression que c'est une affaire franco-allemande, intégrer le plus possible les pays tiers dans les initiatives. Et j'aimerais revenir quand même encore un petit moment sur la question de la langue, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Il faudrait quand même prendre aussi des initiatives à ce niveau afin de permettre justement une meilleure connaissance de l'autre et afin de permettre aussi de voir si ce qui est parfois dit et écrit, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les médias, est-ce que ça correspond vraiment à la réalité? J'aimerais quand même indiquer, par exemple, le livre de Jean-Luc Mélenchon, de Aaron, de Bismarck, qui, lui, reprend tous ces clichés tout en, effectivement, en se basant sur des faits de la politique, mais il y a le danger, à mon avis, qu'il y ait un retour quand même parfois à des clichés et qu'il faudrait faire attention à ça.
Il faudrait dépasser tout ça. Ravenna, qu'est-ce qui vous paraît important, vous avez une vingtaine d'années, pour relancer, pour approfondir cette relation franco-allemande? C'est vrai que peu de Français parlent l'allemand. Est-ce que c'est une priorité selon vous?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est un point très important. Pour moi et pour tout le monde, je crois que la langue, c'est le premier point de rencontre. Et si j'aurais jamais appris le français, j'aurais pas eu la confiance de venir en France, par exemple. Et c'est ça vraiment qui doit continuer à être fait dans les écoles. Souvent, par exemple, je parle avec des Français qui me disent « Oui, j'ai fait l'allemand, mais j'ai jamais fait assez pour vraiment parler de l'allemand avec des Allemands. »
Et j'ai tout oublié, c'est ça.
Exactement, j'ai fait au lycée. Et depuis, c'est perdu. Et ça, c'est vrai, pas seulement entre la France et l'Allemagne, mais pour tous les pays de l'Europe.
Alors, Christian Lequin, dans son discours de la Sorbonne en septembre dernier, qui est le grand discours européen, Emmanuel Macron a souhaité la mise en place d'un nouveau traité de l'Élysée en 2018, donc cette année. Mais en attendant, les députés allemands et français vont adopter demain, lundi, au Bundestag et à l'Assemblée, une résolution qui essaye de tracer les perspectives d'un nouveau traité. Alors on y trouve par exemple la réalisation d'un espace économique franco-allemand avec des règles harmonisées, par exemple le droit des sociétés, la fiscalité des sociétés, c'est effectivement un sujet important, un marché unique de l'énergie, et puis sur le plan social, par exemple des normes communes qui garantiraient un niveau analogue des droits sociaux dans les deux pays. Tout ça c'est important, effectivement. C'est symboliquement important dans le traité de l'Élysée. Il y a d'abord le symbole et après ce qu'on en fait après.
Oui, et puis il y a aussi un élément de conjoncture, c'est-à-dire je pense que lorsque Emmanuel Macron a fait son discours, il pensait possible que les deux exécutifs puissent faire une proposition conjointe. Or, ça n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de gouvernement encore de former en Allemagne. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est rabattu sur une déclaration entre les deux chambres basses, entre Bundestag et l'Assemblée nationale. Non, je pense que les choses sérieuses, si je puis dire, sur la réforme de l'Europe ne pourront être discutées qu'à partir du moment où la coalition aura été validé. Et donc, première question, c'est est-ce que les délégués du Parti social-démocrate voteront ou non pour ce préaccord de coalition ? On ne peut pas exclure qu'éventuellement ils demandent à ce qu'il y ait un référendum, auquel cas l'ensemble des militants seront saisis. Alors, si jamais le SPD se retirait, alors là que se passerait-il ? Eh bien, on aurait soit de nouvelles élections, soit un gouvernement minoritaire, ce qui n'est jamais arrivé en Allemagne. Mais ça ferait perdre bien sûr beaucoup de temps à la France, à Emmanuel Macron, pour essayer de négocier cette relance de l'Europe.
Oui, parce que dans le meilleur des cas, il y aura un gouvernement en Allemagne en avril.
Oui, parce que là, c'est une chose que les Français ont parfois du mal à comprendre. C'est un pays très démocratique, oui, l'Allemagne.
Pour nous, c'est très compliqué, parce que voilà. On a des élections le dimanche, le lundi, on a un Premier ministre, le mardi, on a un gouvernement, et le mercredi, on a déjà des frondeurs.
Exactement, ah, exactement. Là, il faut que tout l'ensemble de détails de ce que constituera le programme de la coalition soit validé. Donc tout ça prend du temps, bien entendu. En même temps, il faut aussi tenir compte de la conjoncture dans les autres pays européens. On évoquait l'Italie tout à l'heure. Les élections italiennes du printemps sont absolument fondamentales parce que la France et l'Allemagne ont besoin du soutien italien. Et donc, il faut tenir compte aussi de la montée de ces sentiments anti-Union européenne dans un certain nombre de pays, en particulier l'Europe centrale, qui est un peu la zone triste actuellement, je trouve, de l'Union européenne. Je le dis d'autant plus que j'ai beaucoup soutenu à l'époque l'élargissement de l'Union européenne à l'Europe centrale.
En tout cas, il y a une fenêtre de tir qui ne faudrait pas rater pour approfondir la construction européenne, c'est indiscutable, et elle se réduit quand même au fil des semaines.
Voilà, donc première étape, c'est que la France et l'Allemagne puissent vraiment négocier ensemble parce que l'Allemagne retrouve un gouvernement, ça c'est le premier point. Puis après, il y a la question de trouver des soutiens parmi les 26 autres partenaires qui seront bientôt 25 d'ailleurs.
Alors Christian Lequin, c'est important la relation au sommet entre la chancelière d'un côté, le président de l'autre, puis il faut peut-être aussi développer les relations entre les citoyens. Alors on peut constater que les Allemands viennent souvent en vacances en France et qu'ils connaissent assez bien notre pays, et c'est l'inverse n'est pas vrai. Rares sont les Français qui vont en vacances en Allemagne, sauf évidemment Berlin qui attire beaucoup de jeunes.
Et oui, on a toujours tendance tendance à aller en vacances dans son sud. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a plus d'Allemands qui viennent en France, c'est parce qu'ils viennent rechercher le soleil. Mais c'est effectivement et les Français n'ont pas ce réflexe naturel d'aller en Allemagne. En même temps, lorsqu'ils vont en Allemagne, ils découvrent souvent un pays formidable. Ils rentrent enthousiastes. C'est l'expérience en tout cas que je fais très souvent. Ils vous disent mais finalement c'est très sympa l'Allemagne. Il y a des belles choses.
Les Allemands
sont très sympas, mais ils n'auraient pas forcément le réflexe d'aller y passer leurs vacances. Je veux dire qu'il y avait une petite chose aussi dans les années 60 qui jouait en faveur du flux, c'était le service militaire. Un certain nombre de jeunes Français n'étaient jamais sortis de leur pays, mais avaient eu l'occasion de faire une expérience à l'étranger en étant au service militaire en Allemagne.
Oui, on ne peut pas non plus espérer de nouveau rétablir le service militaire. Une forme d'occupation. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Fonso, Carole Lyon de Corigny International et Samia Metteni. Merci aux équipes de la radio publique de la SAR. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour réécouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, RFI.fr ou les applis mobiles et gratuites de RFI. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescal, où que vous soyez, à Sarrebruck, à Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.